Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Oui. Vous n'avez pas trop froid, pas trop chaud? Non? Personne n'ose rien dire parce qu'il y a les frileux, il y a ceux qui ont toujours chaud, donc il faut satisfaire tout le monde. Est-ce que vous savez que le premier sujet de conversation quand on rencontre une personne, c'est quoi? Ça va? Le temps, la météo. Ah ben, il fait beau aujourd'hui. Ah ben, il pleut. Ah ben, il fait bon. Ah, oh, l'hiver est doux. C'est... Allez, 9 fois sur 10, c'est le premier sujet de conversation. Ce matin, je ne vais pas m'arrêter sur la météo, ni savoir s'il fait doux, s'il fait froid. Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur la température de notre vie spirituelle. Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Je vous invite à prendre la lecture du premier texte dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse au chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 14. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. L'apôtre Jean était en exil sur l'île de Patmos et il reçoit une vision de Dieu et qui lui dit, entre autres, d'écrire aux sept églises d'Asie. Et nous allons lire ici ce que cette vision lui dit d'écrire à l'église de Laodicée. Chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Le Saint-Esprit décrit ici à Jean et dans cette lettre, une situation qui est très contrastée entre la propre vision de l'église de Laodicée, la manière dont elle se voyait, et la manière dont le Seigneur la voyait lui. Et on a une opposition, et parfois il peut y avoir dans nos vies aussi ce même décalage entre ce que nous pensons être et la manière dont Dieu nous voit. Au verset 15 et 16, il est dit « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » La tiédeur, c'est une question de compromis. Et c'est le thème de mon message ce matin. Je souhaiterais qu'on aborde les compromis. Et c'est une situation intermédiaire. On pourrait dire une indécision, je suis entre les deux, je ne suis ni froid, ni bouillant, tout compte fait, c'est pas si mal que ça, vaut mieux être tiède que froid, tant qu'à faire. Il y a différentes situations pour être tiède, soit c'était chaud et ça s'est refroidi, quand vous mettez une casserole d'eau à chauffer, vous la faites bouillir, à un moment si vous coupez le feu et que vous la laissez, au fil du temps elle va se refroidir, c'est une loi naturelle. Donc il y a un manque de chaleur, forcément, ça se refroidit. Il y a une autre possibilité, quand vous faites un chocolat chaud à votre enfant et qu'il est trop chaud, on fait quoi? Ou quand la soupe est trop chaude, vous faites quoi? On attend que ça refroidisse. Ou si on est un peu plus pressé, ben on prend du lait froid, on prend et puis on verse un petit peu de froid. Et puis le chaud devient un peu plus tiède et puis on peut boire sa soupe. Et puis il y a une autre situation, c'est aussi ben, quelque chose qui est froid et puis on le met dans l'air ambiant. Et puis tout doucement, il commence à se réchauffer, mais il ne va pas aller jusqu'à être bouillant. Il va se tiédir. Vous prenez une bonne bouteille de vin hein, qui sort de la cave et puis on fait quoi? On va la mettre à température ambiante. Ben vous pouvez la laisser 8 jours, 10 jours, 15 jours, elle ne sera pas bouillante. Hein. Elle sera à température ambiante dans la tiédeur. Et les compromis dans nos vies nous amènent à être ni froid ni bouillant, à être dans l'indécision, à être dans deux situations. Je voudrais qu'on fasse un petit tour dans l'Ancien Testament. On va prendre dans le livre de Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7 et au verset 1er. Deutéronome chapitre 7 verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession. L'Éternel parle au peuple d'Israël qui était à la conquête du pays de Canaan. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et puis nous allons voir un peu plus loin, toujours dans Deutéronome au chapitre 12, les versets 29 à 32. Deutéronome chapitre 12, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. » Tu n'y agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Remarquez le verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. L'Éternel leur demandait de tout détruire, mais de ne pas y revenir pour essayer de comprendre. Ah oui, mais c'est important de savoir le contexte, pourquoi ils faisaient comme ça. Non, l'Éternel avait ordonné de détruire et avait prévenu en disant « Garde-toi de te laisser prendre au piège ». Et puis nous allons lire un peu plus loin dans Josué, au chapitre 7, Josué chapitre 7, nous lirons les versets 1 à 13, mais je vous encourage à lire le chapitre en entier à la maison. Vous pourrez voir les conséquences dramatiques qu'il peut y avoir quand il y a la désobéissance à Dieu et quand il y a les compromis dans la vie. Verset 1er du chapitre 7, « Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays ». Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué lui dire « Il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain !» Il avait juste oublié les promesses que l'Éternel avait faites, comme quoi il battrait ces peuples. « De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ?» Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et puis vous pourrez lire la suite. Acan avait vu dans le butin un beau manteau. Oh, il s'était laissé attirer. Je ne sais pas si c'était du vison. C'était un manteau de Shinéar, certainement de valeur. Et puis il avait vu 200 sicles d'argent, un lingot d'or. Et vous verrez en lisant la fin du chapitre, il est dit, et c'est Acan lui-même qui parle en disant « Je les ai convoités et je les ai pris. » La convoitise. C'est souvent ce qui commence quand on met le doigt dans la convoitise. C'est le piège. C'est le piège dans lequel on risque de tomber. Il les avait cachés dans sa tente, dans la terre. Il était conscient de ce qu'il faisait. Parce que s'il n'avait pas été conscient, il les aurait laissés à la vue de tout le monde. Donc il savait très bien ce qu'il avait fait. Et il avait caché ça, il l'avait enfoui. Et ça me fait penser parfois à des réflexe qu'on peut avoir, ou plutôt que de régler le problème, on va l'enfouir, parce qu'on a plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est ce qui s'était passé, c'est que s'il avait eu réellement la crainte de l'Éternel, il serait allé voir Josué en se repentant, en disant « J'ai péché contre l'Éternel, que doit-on faire ?» Non, il a enfoui. Et puis il a fait comme si de rien n'était. Alors les conséquences, on les a lues. Tout d'abord, c'était une défaite. Alors que Dieu avait promis la victoire sur ses peuples, sur ses nations, ça a été la défaite. Et bien souvent, dans nos vies, on ne comprend pas pourquoi la victoire, alors que Dieu a fait de belles promesses, et la victoire ne vient pas. Et plus que ça, non seulement elle ne vient pas, mais c'est la défaite. Et puis c'est défaite sur défaite. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourtant, Dieu est vivant. Ben, parce qu'il y a des choses qu'on a enterrées et qui ont besoin d'être mises à jour. Le péché d'Acan aura pour conséquence la mort de 36 hommes au combat. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là, mais il y aurait à méditer aussi, par le péché d'un homme, les conséquences qu'il peut y avoir sur les autres. Et puis surtout, la conséquence sur sa propre vie et celle de sa famille, vous le verrez si vous lisez la fin du chapitre, Ils mourront tous sous le jugement de Dieu. Et là encore, ça doit nous interpeller, notamment les pères, sur les conséquences que peuvent avoir les compromis et le péché dans les vies et qui impactent sur la famille, qui impactent sur les proches. Alors oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et heureusement, Jésus est venu pour accomplir la loi. Mais les conséquences de nos actes ont des répercussions dans notre propre vie et des répercussions dans ceux qui nous sont proches, dans nos familles. Je vous invite à faire une autre lecture dans le livre des Juges. Livre des Juges au chapitre 1er, les versets 27 et 28. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants. Et puis, si vous lisez jusqu'à la fin du chapitre, il en est de même pour Aser, il en est de même pour Nephtali, et ainsi de suite. Ils ne chassèrent pas les Cananéens lorsqu'Israël fut assez fort. Là encore, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce que l'Éternel avait dit, bon, quand tu penses que tu seras capable de tenir, tu seras fort, alors à ce moment-là, tu t'arranges, tu n'es pas obligé de les chasser ni de les exterminer. Mais c'est bien. Allez, tu as mis un tribut. Tu les assujettis, donc tu maîtrises. Ok, c'est bien, tu maîtrises. Si on lit un peu plus loin au chapitre 2, les juges, toujours chapitre 2, versets 10 à 12, toute cette génération, celle qui avait assujetti les Cananéens, fut recueillie auprès de ses pères. Elle mourut, elle s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Elles servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Eh oui, le piège s'était refermé. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. C'était exactement la recommandation que l'Éternel avait faite à son peuple. Tu les chasseras de peur que vos fils, de peur que vos filles. Et on en voit ici les conséquences directes. Oui, Dieu n'avait pas demandé d'assujettir les Cananéens à un tribut, il avait demandé de les chasser, de les éliminer. Et quand on a l'impression de maintenir la situation, de maîtriser, c'est là que le piège se referme. Et on le voit ici, les conséquences, là encore, sur la génération qui est venue derrière et qui abandonnait l'Éternel pour se livrer au Dieu de ce monde et des peuples cananéens. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors quel enseignement pour nous aujourd'hui? Israël était le peuple choisi à qui Dieu avait donné des lois et des ordonnances. Et je l'ai dit, nous ne sommes plus sous la loi. Jésus-Christ est venu accomplir la loi pour que nous soyons au bénéfice de la grâce. Mais quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes mis à part. Nous l'avons chanté le premier chant ce matin. Qui sont des paroles de l'Apocalypse, tirées du livre de l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Quand nous sommes venus à Jésus, qu'il a pardonné nos péchés, alors il fait de nous un peuple à part. Notre vie doit lui être consacrée et notre façon de vivre ne doit plus être la même. Comme si Dieu nous demandait de dévouer par interdit notre ancienne manière de vivre, notre ancienne manière de penser, d'agir, les pratiques que nous avions avant de le rencontrer. Alors le Seigneur ne veut pas qu'elle demeure dans nos vies et de trouver ce compromis qui fait que j'ai accepté Jésus, c'est mon sauveur, mais je vais bien trouver un petit peu. Non, mais je maîtrise, je suis fort. J'ai la situation en main. Je vous invite à lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La ville de Laodicée était réputée une ville riche. Il y avait une industrie textile et c'était une des villes les plus riches à l'époque de la province d'Asie. Et les historiens rapportent que lors du tremblement de terre qui a frappé la ville en l'an 60, alors que l'habitude quand ces phénomènes se passaient, c'est que le gouvernement romain proposait de l'argent pour la reconstruction. Et Laodicée a refusé en disant « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Il a refusé l'aide. Et l'église de Laodicée était devenue à l'image de cette ville. Elle avait perdu tout discernement. Le monde avait fini par déteindre sur les chrétiens de cette église. Je me suis enrichi, tout va bien, j'ai ce qu'il me faut. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aide. Paul, dans sa lettre aux Romains, invite les chrétiens et les Romains, et le texte est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui, à ne pas se conformer au siècle présent. Se conformer, c'est prendre la même forme, c'est s'accorder avec quelque chose. Et il disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La transformation, c'est une métamorphose. C'est donner à une personne, à une chose, une autre forme que celle qui lui est propre ou qu'elle avait auparavant. C'est l'exemple de la chenille qui se transforme en papillon. Il n'y a plus rien de l'ancienne nature. Il y a une transformation. Et Paul nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et là, parfois, on entend des gens qui disent « De toute façon, je suis comme ça, on ne va pas me refaire. Hein. Mes parents m'ont fait comme ça. Bah, voilà, je n'y dis plus rien, c'est comme ça. Bah, » Moi, je vous dis « Non, ce n'est pas comme ça. » Moi, je vous dis « Ce n'est pas comme ça. » Parce que le Seigneur peut vous transformer. Le Seigneur peut nous transformer à son image, nous changer de nature, nous donner une autre forme conforme à la sienne. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, première épître de Jean au chapitre 2, les versets 15 à 17 nous disent ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le terme qui est utilisé pour le monde, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les épîtres, décrit, fait référence au système de ce siècle. Et on le voit que ce soit à l'époque de l'apôtre Paul, à l'époque de l'apôtre Jean, que ce soit aujourd'hui, quand on décrit le monde, on décrit un système qui fonctionne indépendamment de Dieu. Ce monde croyant être sage, je vous passerai toutes les lois, toutes les choses qu'on peut entendre par des gens qui ont fait des grandes études. Ah, il y a de l'instruction, hein, mais la sagesse, ce n'est pas du tout la même sagesse qu'on peut avoir et que Dieu peut nous donner. Alors Dieu ne nous demande pas de nous retirer de ce monde. Bien évidemment, nous vivons, nous travaillons, nous sommes, nous côtoyons ce monde. Il ne nous demande pas de vivre en ermite ou en autarcie, de se retrouver entre nous. Il ne nous demande pas non plus de rejeter les personnes qui nous entourent et qui ne sont pas à lui. Mais il nous demande de rester un peuple à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Je prendrai cette image que vous allez très bien comprendre si vous faites un tout petit peu la cuisine. Quand on met de l'huile dans du vinaigre, vous avez déjà vu ce que ça fait, hein. L'huile, elle reste dans le vinaigre, mais elle ne se mélange pas. Et l'enfant de Dieu, dans le monde, c'est l'huile dans le vinaigre. C'est l'huile dans le vinaigre. On est dedans, mais on ne peut pas se mélanger parce que la nature que Dieu nous a donnée n'est plus la même. Jacques, au chapitre 4, écrira ceci. Chapitre 4, versets 4 à 7. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tendent à l'envie. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Adultère que vous êtes, ouf. On pourrait dire, mais non, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dieu considère l'amour du monde comme une infidélité, comme une rupture de l'alliance passée entre lui et nous. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on aimera un, on aimera l'un et on haïra l'autre, ou on s'attachera à l'un et on haïra l'autre. Et Dieu nous dit, celui qui aime le monde, il est adultère. Il est inimitié contre Dieu. C'est une position d'hostilité, d'opposition, de rébellion. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Quand j'ai médité ce verset, là encore, je me dis, mais celui qui veut être ami du monde, bah, il s'éloigne de Dieu, ok? Non, non, la parole va plus loin, il ne s'éloigne pas. Il se rend ennemi de Dieu. C'est différent de s'éloigner, c'est être en opposition. Et c'est pas Dieu qui s'éloigne de lui. Vous remarquerez aussi, il n'est pas dit « celui qui veut être ami du monde », Dieu se retire, Dieu s'éloigne, Dieu lui tourne la tête et ne pense plus à lui. Non, non, c'est celui qui veut être ami du monde. Alors c'est lui-même qui se rend ennemi de Dieu. Puisses-tu être froid ou bouillant? En d'autres termes, puisses-tu être entier sans demi-mesure? L'entre-deux avec Dieu, ça ne va qu'un temps. La lettre à l'église de Laodicée commence en disant « Je connais tes œuvres ». Elle était tiède, l'église de Laodicée. Pourtant, il y avait certainement de belles œuvres. Peut-être des chrétiens engagés dans beaucoup de services. Peut-être des œuvres parce qu'il y avait de l'argent, il y avait de la richesse. Donc, on aidait, on pourvoyait aux besoins. Et Dieu ne condamne pas les œuvres que nous pouvons faire. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand les œuvres ont plus de place que notre propre relation avec Dieu. Il attend plus que nos œuvres. Si bonnes soient-elles, il attend plus que ça. Il attend une relation personnelle, sans compromis, avec Dieu. Et il y a bien des années de ça en arrière, j'étais dans cette tiédeur, dans ces œuvres. Parce que dans une... Voilà, je m'étais installé dans une routine, j'allais dire religieuse, évangélique. Ah, une belle religion évangélique. Je servais à l'église. Je jouais de la musique. J'étais là les dimanches, bien habillé. Je mettais même une cravate à l'époque. J'en mets plus maintenant. Mais mon cœur, il était tiède. Parce qu'il n'y avait plus de relation avec Dieu. Ah, il y avait des œuvres. Il y avait des œuvres. Je priais à haute voix, je louais, j'étais présent. Mais c'était la tiédeur qui s'est installée. Et je pouvais passer des semaines sans lire la Bible, des semaines sans prier, sans avoir une relation personnelle avec lui. Et personne, peut-être, ne s'en serait douté. Parce que les œuvres étaient là, elles étaient belles, mais ce n'était pas le plus important. Et merci Seigneur, il a placé à côté de moi une épouse qui, je l'ai su après, priait pour moi. Parce qu'elle... Elle savait qu'il y avait un décalage. Elle savait qu'il y avait un décalage entre ce que je vivais, ce que je montrais et ce que je vivais. Et elle priait dans le secret jusqu'au moment où Dieu est intervenu. Il m'a arrêté par les circonstances de la vie, par des épreuves qu'il a mises sur ma vie et qui m'ont fait réaliser mon état de tiédeur. Et je fais une parenthèse pour mes frères, mes sœurs, peut-être qui voyaient à côté de vous un conjoint, une conjointe, qui n'avance peut-être pas à la même vitesse que vous, qui est dans un état de tiédeur. Et je peux vous assurer que ce n'est pas par tous les beaux discours, ce n'est pas par tous les beaux versets que vous allez pouvoir lui dire et par les reproches. Priez, priez, mettez-vous sur vos genoux, intercédez. Et je peux vous assurer que la situation va radicalement changer. Je peux témoigner que le Seigneur l'a fait dans ma vie et il le fera pour vous aussi. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Là encore, c'était la vision complètement faussée de l'Église. Vous remarquerez qu'il n'est pas dit, tu es riche. Non, toi tu dis que tu es riche. Je n'ai besoin de rien, la suffisance. Tout va bien. Je m'appuie sur ce que j'ai, sur mes biens matériels, ma situation professionnelle, mon rang social, mes relations. Pas de soucis. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là encore, il y a une chose qui m'a interpellé. Peut-on être malheureux et ne pas le savoir? Peut-on être malheureux et ne pas le savoir? En général, quand on est malheureux, ça ne va pas en ce moment, ça ne va pas. Là, on était dans une situation où le Saint-Esprit dit à cette Église, tu ne sais pas que tu es malheureux. Si vous découpez le mot malheureux, tu es heureux, tu penses être heureux. Mais tu es malheureux. Tu n'es pas heureux de la bonne manière. Tu n'es pas heureux de cette paix profonde, cette joie intense que le Seigneur peut donner, parce que tu ne connais pas le vrai bonheur. Ton bonheur s'appuie sur ce que tu as, sur tes œuvres, sur ce que tu fais, sur tes biens. Ton bonheur, il n'est pas fondé sur l'amour, sur la joie que le Seigneur peut te donner. Et demain, si tout s'écroule, si tes richesses, ton patrimoine, ton travail, tout ça s'en va, ta joie, elle sera où? Est-ce que ta joie sera dans le Seigneur? Tu es malheureux et tu ne le sais pas. Tu es misérable, tu es pauvre. Et là encore, tu t'en rends pas compte. Tu ne le sais pas. Où est la vraie richesse? On a chanté tout à l'heure le vrai trésor. Et pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui, le trésor, il est là. Jésus disait à ses disciples, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous rassure tout de suite, le Seigneur n'a aucun problème avec les richesses. Le Seigneur n'est pas contre. Le Seigneur n'est pas contre. Qu'il est difficile, pas à ceux qui ont des richesses, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans des richesses. Parce que là encore, on sait que les richesses de ce monde, elles ne valent pas grand-chose. La parabole de l'homme riche, vous pourrez la relire en entier si vous le souhaitez, mais dans Luc chapitre 12, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Jusque-là, tout va bien. C'est un agriculteur qui est béni par le Seigneur. Il a tellement de récoltes qu'il n'a plus de place pour la rentrer dans ses greniers. « J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange-toi, te réjouis. » Mais Dieu lui dit insensé, « Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Qui n'est pas riche pour Dieu. Les richesses de ce monde, ça vaut rien devant le Seigneur. Ça vaut rien. Ça n'a aucune valeur devant ses yeux. Tu es aveugle, tu ne le sais pas. Le Seigneur dit à cette église, tu es aveugle, tu ne sais pas. Mais attends, Seigneur, si j'étais aveugle, je le saurais, je m'en rendrais compte. Non, non. Tu ne sais pas que tu es aveugle. Et là, ça nous parle aussi d'orgueil qui envahit les vies. Et une personne orgueilleuse, vous en avez certainement tous fréquenté, 10 personnes peuvent lui dire la même chose. Non, non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Écoute, je te le dis, parce que je t'aime, tu fais fausse route. Non, 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 non. Je sais, c'est la bonne route. Et puis un deuxième va le dire, et puis un troisième, parce que l'orgueil aveugle. L'orgueil aveugle. Il est question de manque de discernement, de manque de repère. Tu crois savoir où tu vas, mais tu es sur une mauvaise voie. Et c'était le cas de cette église de Laodicée, et c'est le cas de certains chrétiens qui sont aveugles et qui disent « Non, non, c'est bon, je sais où je vais. Non, non, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Tu es nu, tu es nu. » On peut cacher la réalité de sa vie avec de beaux vêtements, avec de belles œuvres, avec de belles apparences, donner une bonne image. Le Seigneur parlait des pharisiens comme des sépulcres blanchis. À l'apparence, elle était belle, mais à l'intérieur, ça sentait la mort. Tu es nu devant le Seigneur, tu es nu. On ne peut rien cacher devant lui. Et tu crois, par cette belle apparence que tu donnes, tu crois cacher les choses. Tu peux, comme Achan qui avait caché dans la terre son butin, son manteau, cet argent qu'il avait dérobé, tu peux le cacher devant les hommes, tu ne peux pas le cacher devant Dieu. Devant Dieu, nous sommes tous à nu. Alors Saint-Esprit dit à cette église, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Waouh, quelle sentence! La sentence est terrible et sans équivoque. « Je te vomirai de ma bouche », c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est un phénomène de rejet. Hein. C'est un phénomène de rejet. « Je te rejetterai, je ne te connais pas, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour ceux et celles qui sont dans le compromis, dans la tiédeur. Rassurez-vous, la situation n'est pas désespérée. Si le Seigneur parle à votre cœur ce matin, ne soyez pas attristés. Si le Saint-Esprit met le doigt sur des choses dans votre cœur, alors Dieu nous donne le remède et le chemin à suivre. Tu es misérable, tu es pauvre ? Alors achète de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. L'or éprouvé par le feu, l'or éprouvé nous parle de purification. Le fondeur, quand on extrait l'or, ben, y a des scories avec. Et pour le purifier, il faut l'amener à haute température. Pour enlever toutes les scories, il faut le passer par le feu. Et c'est ça qui lui donne la valeur. Si vous prenez quand il est extrait de la terre, il n'a pas, à ce moment-là, beaucoup de valeur. Ce qui va lui donner toute sa valeur, c'est quand il sera passé par le feu du fondeur, toutes les scories auront été enlevées, et là, vous aurez l'or véritable. Job dira au chapitre 23, verset 10, en parlant de Dieu, alors que Job passait par des épreuves terribles, et il parlait de l'Éternel en disant, « Je sais néanmoins quelle voie j'ai suivie. » Parce que Job était un homme intègre qui marchait dans les voies de Dieu, et il disait, s'il m'éprouvait, si Dieu m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Il pouvait dire devant Dieu, je n'ai aucune scorie, je n'ai rien qui vient faire perdre de la valeur. Tu es aveugle, prends du collyre pour oindre tes yeux. Il faut commencer par reconnaître que sa propre vision n'est pas bonne. Ça, c'est le plus dur. Reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on est sur une mauvaise voie, qu'on ne voit pas clair. Waouh, quand on en arrive là, il y a déjà eu un petit bout de chemin de parcouru. Mais il faut commencer par ça. Achète du collyre pour oindre tes yeux. Le collyre est utilisé pour soigner les conjonctivites et, entre autres, dans les symptômes d'une conjonctivite, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, il y a deux symptômes particuliers, c'est que souvent on se réveille le matin avec les paupières collées et on a une vision qui est brouillée et qui est floue. Et le Seigneur dit, achète du collyre pour oindre tes yeux. Laissons le Saint-Esprit agir pour nous ouvrir les yeux, nous redonner une vision claire. Acceptons qu'un frère, qu'une sœur nous dise, attention, attention, tu es sur une mauvaise route. Laissons-nous conduire par les uns, par les autres, mais surtout par le Saint-Esprit et par sa parole. Tu es nu, achète des vêtements blancs, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un petit peu avant, dans le chapitre 3, toujours de l'Apocalypse, dans une lettre que Jean écrit à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 4, il nous est dit ceci. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le vêtement blanc, c'est le vêtement dont le Père revêt le fils prodigue. Alors qu'il a quitté la maison, il est parti dans la débauche et quand il vient repentant, le Père l'attend de loin et dit « Revêtez-le d'une tunique, c'est ce manteau de la rédemption. C'est ce manteau que Dieu veut, nous revêtir. Il nous invite à nous débarrasser des vêtements qu'on a pu mettre pour cacher peut-être notre vie, à nous dépouiller du vêtement de la propre justice. Moi, ça va, hein, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. J'ai une vie bien rangée. La propre justice, c'est le vêtement aussi dans lequel parfois on s'enveloppe. Mais Dieu voit la nudité qui est en dessous. Le manteau de la religion, ou même une religion pentecôtiste, hein. Quand la religion prend plus de place que la relation, alors on a un beau manteau. On est là, fidèle aux réunions, on est engagé dans des services, dans des œuvres. On a mis son beau manteau, mais on est nu, parce qu'il n'y a plus de relation avec Dieu. Alors le Seigneur veut nous revêtir du vêtement blanc, de la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Une dernière lecture dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Nous lirons les versets 1 au verset 10. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, enlevez ce manteau. Laissez le Seigneur enlever ce manteau, la vieille nature, et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est à nous de choisir ce que l'on veut chérir. L'apôtre Paul dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Bien souvent, dans nos prières, on dit « Seigneur, fais que je sois comme ci, Seigneur, fais que je sois comme ça ». Bien sûr, il entend les prières. Mais il nous demande aussi de faire des choix. Et les choix, jamais il les fera à notre place. Il approuvera nos choix s'ils sont bons et nous donnera la capacité de les tenir. Mais c'est à nous de faire le choix. Affectionnez-vous. Faites donc mourir. Renoncez. Le Seigneur ne peut pas le faire à notre place. De renoncer. Avons-nous envie de renoncer ou pas? Avons-nous envie de nous affectionner aux choses d'en haut ou aux choses de cette terre? L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, à l'église de Laodicée, écrit dans cette lettre, c'est le Seigneur qui parle, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » La décision, elle est entre nos mains. Et donc du zèle, repens-toi. Le zèle, c'est l'ardeur, c'est l'empressement. C'est de dire oui, Seigneur, je veux choisir. Je m'empresse de faire le bon choix. Je m'empresse de revenir à tes pieds. Je m'empresse de te demander pardon. Repens-toi. Dieu ne défonce pas les portes. Il frappe. Il frappe inlassablement. Et c'est une bonne nouvelle. Il ne se lasse pas de frapper. Celui qui veut ouvrir, alors il entre. Il se fait l'ami de celui qui accepte de le faire entrer dans sa demeure. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Il y a un tête-à-tête qui se passe entre nous et le Seigneur. Une amitié qui se crée. Et puis il y a une récompense magnifique. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je ne sais pas si vous avez envie un jour de vous asseoir avec Jésus sur son trône. Franchement, ça doit être quelque chose. Moi, je n'arrive pas à imaginer, mais ça doit être quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine dans les médias ces journalistes à la Maison-Blanche. Est-ce que vous avez vu ça? Les journalistes qui étaient invités avec M. Hollande, et dans le fameux bureau ovale de la Maison-Blanche, ils étaient tellement fiers qu'ils se prenaient en photo pour envoyer à leurs copains la photo avec M. Obama et M. Hollande derrière dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Waouh! Waouh! Je suis allé dans le bureau ovale. Ben, moi, je vous propose mieux que ça. Moi, je vous propose d'avoir une place réservée sur le trône avec Jésus. Je vous propose qu'on se recueille quelques instants et qu'on puisse passer quelques minutes devant le Seigneur. Qu'on se laisse sonder par le Saint-Esprit, par la parole qui peut-être pour certains paraître dure. La parole n'est pas là pour nous accuser, elle n'est pas là pour nous attrister, elle n'est pas là pour nous décourager. Au contraire, elle est là pour nous fortifier, nous encourager. Et ce matin, peut-être plusieurs sont dans cette situation de tiédeur, se sont reconnus. Peut-être le Seigneur est, je suis convaincu que le Saint-Esprit ce matin met le doigt sur des choses dans nos vies qui sont des compromis. Par qui, par quoi ma vie est-elle le plus influencée aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est plus influencée par le monde, par ses méthodes, par sa manière de penser, d'agir ? Oh, mais de toute façon, tout le monde fait comme ça, fais-le aussi. Ou est-ce que ma vie, elle est plus influencée par Dieu, par les choix que nous faisons conformes à la parole de Dieu ? Le Seigneur veut parler ce matin. Il veut, pour plusieurs, nous faire changer d'état, de situation. Passer de la tiédeur à être bouillant. Le Seigneur ne veut pas une petite amélioration. Là encore, il ne dit pas « puisses-tu être froid ou chaud ?» C'est plus que d'être chaud, c'est d'être bouillant, c'est d'être entier. C'est d'être entier pour lui. Il n'y a pas de place pour le compromis. Alors oui, c'est un combat. C'est un combat. S'il est question de victoire, il est forcément question de combat. Mais le combat, il n'est pas au-delà de nos capacités, il n'est pas au-delà de nos forces. Parce que la victoire, elle a été accomplie pour nous à la croix. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de prendre les bonnes résolutions, de faire les bons choix, de dire oui, ça dans ma vie, je reconnais que ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors je ne sais même peut-être pas, peut-être que tu ne sais pas comment tu vas régler ce problème, parce que peut-être même qu'aujourd'hui ça te dépasse. Tu as enterré ça comme Achan a enterré le butin alors que l'Éternel avait dit de dévouer par interdit. Et aujourd'hui, c'est dans ta vie, c'est un compromis qui dit « pollue ta vie et tu ne sais pas comment tu vas t'en débarrasser, ce matin, le Seigneur veut vraiment t'encourager à prendre position, à dire « oui, ça, je n'en veux plus ». Ce matin, je prends position pour dire « non, je le dépose à tes pieds, Seigneur ». Alors, il t'aidera par sa force. C'est lui qui te donnera la capacité. Peut-être par une manière que tu n'as même pas imaginée, c'est lui qui te donnera la capacité de sortir de cette situation, de ce compromis qui fait que tu es dans une tiédeur aujourd'hui. Je voudrais inviter ce matin les frères et sœurs. Je m'adresse à ceux et celles qui, un jour, ont donné leur vie à Jésus, sont passés par les eaux du baptême, se sont engagés. À vous particulièrement, ce matin, qui, devant Dieu, dites oui. Ma vie spirituelle, c'est la tiédeur. Parce que j'ai laissé l'esprit du monde envahir ma vie. Je me suis laissé attirer par des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je vous invite à vous lever à votre place. Non pas devant les hommes, mais devant Dieu. La parole dit « Aie du zèle et repens-toi. Aie du zèle et repens-toi. » Lève-toi à ta place ce matin. Si le Seigneur a mis le doigt sur un point, deux points, trois points particuliers, lève-toi à ta place ce matin pour dire « Seigneur, ce matin, je confesse que ça dans ma vie n'est pas ta gloire. Ce matin, je confesse ma tiédeur, je confesse mon état, mais je te le confie. À partir d'aujourd'hui, prends cette résolution à partir d'aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit te montre dans ta vie, prends cette résolution de dire « je n'en veux plus ». Je décide ce matin de ne plus céder à ces choses-là, de ne plus céder à ces tentations. Je décide de revenir à la vraie source de vie. Alors il te donnera de vaincre. Il te donnera de vaincre par sa grâce, par la force qu'il va te donner. Je te bénis, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont là debout devant toi, Seigneur, au pied de ta croix, qui sont là pour déposer leur fardeau, qui ont cette soif, Seigneur, d'une vie bouillante pour toi. Tu vois cette démarche de foi qu'ils font, Seigneur, une fois de plus, non pas devant les hommes, mais devant toi, Seigneur. Je te donne de leur donner cette assurance que tu les aides, Seigneur. Tu prends, Seigneur, ce péché, ce fardeau, ce qui est venu envahir leur vie, Seigneur, tu le prends. Tu les en libères ce matin, Seigneur. Tu leur donnes la capacité de marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit dans leur cœur, Seigneur. Je te rends grâce pour cela, Seigneur. Merci pour ceux à qui tu donnes une nouvelle vision, Seigneur. Ceux qui acceptent de dire oui. Jusque-là, ma vue était faussée. Je veux voir avec une nouvelle vue. Je veux que ma vision, mon discernement soit différent. Tant de fois, j'ai fait ces choix qui étaient les mauvais choix parce que ma vue était faussée, parce que je n'avais pas le discernement. Tu donnes le discernement à celle qui te le demande ce matin, Seigneur. Je te bénis pour cela, mon Dieu. Oh, je te rends grâce, Seigneur. Sois béni et glorifié, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous rasseoir et je voudrais maintenant m'adresser à une autre catégorie de personnes. La parole dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Et il y a parmi nous aussi ceux et celles qui sont dans la tiédeur parce que ils ont trouvé dans l'Église quelque chose qui leur donne la paix, quelque chose qui les rassure. Peut-être une nouvelle religion évangélique, mais au-dedans, c'est encore la froideur. Parce que le choix de s'engager pour Jésus-Christ n'a pas été fait. Et ce matin, je voudrais m'adresser à un homme, une femme, un jeune, une jeune qui est dans cette situation de tiédeur. Oh oui, pas complètement froid, fidèle, là aussi aux réunions. Peut-être une fille, un garçon, enfant de chrétien qui est dans la tiédeur parce que y a la chaleur du foyer, des parents. peut-être un homme, une femme qui vient dans cette église depuis des mois, peut-être des années, qui a revêtu un vêtement d'une belle religion évangélique, même peut-être des œuvres, mais dont le cœur n'a pas été transformé, dont le péché n'a pas été abandonné au pied de la croix. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur veut faire de toi un homme, une femme, un jeune à part. Le Seigneur appelle ce matin plusieurs à la repentance. Alors si c'est ton cas, tu peux maintenant te lever aussi à ta place et dire: Seigneur, cette vie de péché, je l'abandonne. J'ai marché jusque-là sans toi. Oh, j'ai bien mis quelques petites choses de Dieu dans ma vie pour que l'apparence ne soit pas trop moche. Mais au-dedans, le travail n'a pas été fait. Et je veux, Seigneur, ce matin, que tu viennes transformer ma vie. Je veux abandonner mon péché. Je veux faire demi-tour, changer de vie. Alors lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place, sans tarder. Et le Seigneur va te libérer de ce péché. Le Seigneur va te donner de vivre une nouvelle vie. Y a-t-il un homme, une femme? Un seul peut-être, mais le Seigneur appelle. Merci Seigneur pour ces vies qui se sont levées, Seigneur, ce matin. Pour venir déposer au pied de la croix le fardeau du péché, Seigneur. Merci pour ceux et celles qui choisissent ce matin de changer de vie, de tourner le dos au péché, d'accepter que tu viennes les libérer de ce poids du péché, des chaînes des passions, Seigneur, et qui ce matin font le choix de marcher avec toi, Seigneur. Merci parce que tu leur donnes l'assurance que leurs péchés sont pardonnés, Seigneur. Tu fais d'eux, Seigneur, des enfants de ton royaume. Alléluia, il y a de la joie dans le ciel pour une brebis qui était perdue et qui se repent, qui est retrouvée. Pour un enfant qui était perdu, qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Merci de donner à celui et celle qui se repent la joie de ton salut, Seigneur. Cette assurance, cette ferme assurance que tu as pris les péchés à la croix. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans les cœurs. Je te rends grâce, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia.